Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Il y a près de 5 ans et demi, en novembre 2018, naissait sur les routes et dans les ronds-points un phénomène social inédit, celui des gilets jaunes. Il s'est rapidement identifié par le port de ses vêtements de sécurité et aussi par bien d'autres caractéristiques. Balayé par les vagues du Covid, ce mouvement social atypique est un peu oublié, bien qu'il y soit fait référence dès que les protestations et les luttes prennent de la vigueur. Il est donc très intéressant de comprendre ce qui s'est passé et surtout ce qui en résulte. Nous allons le faire avec mes deux invités, Emmanuel Rungoat et Pierre-Olivier Gomain, que je remercie d'être venus au micro de Divergence FM. Vous êtes les co-réalisateurs du documentaire « Des goûts de lutte, des goûts en deux mots », qui sera présenté en première nationale le 30 avril à 18h au cinéma Diagonale. Projection suivie d'un débat animé par Cécile Hautefeuille, journaliste à Mediapart et qui suit les questions sociales et syndicales. Emmanuel Rungoat, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier et chercheuse au CEPEL, le Centre d'études politiques et sociales. Pierre-Olivier Gomain, vous êtes vidéaste, réalisateur et concepteur multimédia auprès de la Maison des sciences de l'Homme Sud qui coordonne des projets de recherche. Avant d'en venir aux Gilets jaunes, pour rester conforme à la formule de cette émission, racontez-nous votre Montpellier. Alors, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché et pourquoi, Emmanuel?
Alors, bonjour, merci de l'invitation. Moi étant à la fac, à l'université, c'est ce qui m'a fait venir à Montpellier.
Depuis quelques années?
Depuis 2014, donc ça fait une dizaine d'années maintenant. Le quartier de la rue de Lu et puis le quartier Louis Blanc, c'est un peu mon quartier. Donc c'est un quartier que j'apprécie. Et s'il fallait citer une rue, moi je suis tombée en amour, comme disent les Québécois, avec la rue du Plan de l'Olivier, que je trouve vraiment magnifique.
Très bien. Alors, même question, Pierre-Olivier, vos lieux favoris, vos lieux d'élection dont vous parlez autour de vous.
Bonjour Alain, merci de l'invitation aussi. Moi, un lieu emblématique de Montpellier qui m'est cher, c'est le Jardin Botanique, qui est juste derrière l'emplacement où je travaille. Et venant de la périphérie de Montpellier, moi, je cherche toujours dans la ville des petits îlots de verdure.
Et de tranquillité.
Et de tranquillité, et c'en est un qui m'est cher, oui.
Très bien. Alors, deuxième question, puis on coupera court à cette introduction. Quand vous recevez des amis ou des parents de passage, que leur dites-vous du style particulier de Montpellier? En quoi, selon vous, Montpellier se caractérise par rapport aux autres villes, avec notamment les effets mesurables depuis quelques années de sa croissance, Emmanuel? Comment vous racontez Montpellier à vos amis, ceux qui arrivent de Strasbourg, de Marseille?
Oui, alors moi j'ai beaucoup d'amis qui viennent plutôt du Nord. Oui. Donc je leur raconte que c'est une ville de terrasses. Et quand je suis arrivée, j'étais très étonnée de l'effervescence qu'il y avait dans le fait de vivre dehors. Et de vivre, c'est anecdotique, mais ici les femmes de tout âge ont des jupes au-dessus du genou. Et j'ai trouvé ça formidable qu'on puisse faire ça à tout âge.
Donc un certain hédonisme ambiant, on peut le dire comme ça.
Alors je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit une ville plus libérée en termes de mœurs. Mais en tout cas, c'est une ville qui se vit en extérieur et ça, je trouve ça très agréable. Effectivement, c'est une ville qui a aussi beaucoup changé, moi, depuis que je suis arrivée. Et je reste assez amoureuse de l'Écusson plutôt que de la périphérie, des transformations de la périphérie.
Le Montpellier médiéval et classique, quoi.
Exactement. Ouais.
Alors, même question.
Je viens plutôt de la France périphérique. Et Montpellier, je l'ai abordé par les bords et les abords. Et moi, j'utilise l'image de la champignonnière plutôt. Ouais. Je côtoie Montpellier, j'y suis depuis pas très longtemps. Et c'est déjà métamorphosé, en fait. Elle a déjà grandi comme une champignonnière pourrait se développer
Et vous le vivez positivement ou plutôt négativement, cette croissance urbaine et démographique très forte ?
Moi, je trouve ça plutôt bien parce que je viens de la région parisienne où il y a une effervescence de villes et de grandes banlieues qui s'étendent. Donc ça, je trouve ça plutôt vivifiant d'avoir plein de monde et plein de monde qui arrive. Je trouve ça bien.
Très bien. Alors revenons-en aux Gilets jaunes. Alors, Emmanuel Rengouat, qu'est-ce qui vous a conduit dès le début du mouvement à commencer un travail de recherche ? Est-ce un intérêt particulier pour les mouvements sociaux ou pas seulement ?
Alors oui, et d'ailleurs les Gilets jaunes m'ont fait aussi redécouvrir la ville et en partie sa périphérie, puisque maintenant j'ai une relation professionnelle mais aussi presque personnelle.
Vous connaissez tous les ronds-points du coin. Là.
C'est ça, notamment avec le rond-point de Prédarène. Maintenant quand j'y passe en voiture, voilà, j'ai les souvenirs comme quand on vit des choses importantes dans des villes, parce que c'est le rond-point notamment qu'on a suivi dans le film et dans nos enquêtes. Et ce qui m'a fait y venir, c'est que c'est un intérêt pour les mouvements sociaux, c'est que j'enseigne sur les mouvements sociaux. Et c'est que ce mouvement social-là, il a surpris tout le monde, les commentateurs politiques, les hommes politiques, les journalistes, mais aussi les universitaires et les chercheurs des mouvements sociaux. Donc c'est la curiosité, et c'était bien que... Et j'y suis allée avec mes étudiants et mes étudiantes sur le rond-point, donc on allait tout de suite voilà, faire du terrain. Et c'était très intéressant pour moi, parce que comme beaucoup de gens, mon premier réflexe a plutôt été celui de l'incompréhension, de la stupéfaction, voire du jugement.
Oui, qui a été la réaction médiane de beaucoup à ce moment-là, dans le débat public en France.
Tout à fait. C'est un mouvement social qui a très immédiatement essuyé un mépris de classe très très fort d'une partie des médias et d'une partie de la classe politique. Et puis comme c'est un mouvement social qui était assez inédit sur le plan de sa composition sociale, il était difficile à classer, difficile à identifier. Donc il a été taxé de fasciste, d'antisémite, de plein de choses... qui là plutôt s'intégrait plutôt à un jeu de légitimation et illégitimation de la part de ceux qui essayaient de l'identifier plutôt que de la part des mobilisés.
Alors un mot quand même de la manière dont c'est organisé, parce que vous n'étiez pas seul en France à ce moment-là pour travailler sur ce sujet, et on parlera ensuite des résultats de ce travail collectif d'un certain nombre de chercheurs.
Oui, tout à fait. Alors j'ai assez vite monté une équipe à Montpellier avec deux collègues, François Buton et Cécile Joanneau. Et puis on a monté... Alors, très, très rapidement, mais on a monté un projet à l'échelle nationale avec plusieurs collègues, notamment des collègues de Bordeaux, des collègues de Caen, des collègues de Bretagne, des collègues de Lyon. Enfin voilà, on a essayé de quadriller comme on pouvait la France. Et puis on a monté au fur et à mesure des années des projets de recherche à géométrie variable à échelle locale et nationale, à la fois quantitatifs, c'est-à-dire des grosses enquêtes qui permettent d'avoir des données importantes, et des enquêtes plus qualitatives. Donc c'est des récits de vie. On va dans la cuisine des gens, on discute pendant 5 heures de comment s'inscrit cet engagement-là dans leur vie, comment on peut le comprendre, d'où ça vient, ce que ça leur fait.
Bon, au passage, ça permet de raconter comment se fait ce genre de recherche, hein, donc qui n'est pas en chambre, et qui est donc effectivement, comme on le dit, sur le terrain. Alors, vous l'avez évoqué assez rapidement, cette recherche collective a fait apparaître des caractéristiques des Gilets jaunes. On va le développer, bien entendu. Mais en quoi se distinguent-ils, ces Gilets jaunes, des acteurs habituels des mouvements sociaux, dans leur pratique, je dirais, puis ensuite on parlera de leur profil, le profil au pluriel.
Alors, dans leur pratique, c'est un mouvement social qui avait plusieurs caractéristiques assez singulières. Le fait de ne pas se structurer, de ne pas se voilà, c'est un mouvement social qui se donne à voir comme spontané, c'est-à-dire qu'il n'est pas issu d'organisations, c'est pas des organisations syndicales, c'est pas des ONG ni des associations qui l'ont lancé.
Il est spontané,
il commence sur les réseaux sociaux, et puis il y a un appel le 17 novembre 2018 qui fait qu'il y a des milliers de personnes qui vont se retrouver, des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver sur des ronds-points. Donc il y a une importance des réseaux sociaux. Et c'est un mouvement qui ne va pas se structurer, qui ne va pas se structurer en parti politique comme les indignés ont pu le faire avec Podemos, qui ne va pas se structurer ensuite en organisation pérenne. Donc ça, c'est une de ses particularités. Ça s'inscrit quand même dans une vague des mouvements sociaux de ces dernières années. Il y a eu des mouvements d'occupation de place comme Nuit debout en France en 2016 ou comme les indignés en Espagne. Voilà, c'est un mouvement qui aussi fait de l'occupation à partir d'une naissance spontanée sans s'organiser. Mais c'est quand même particulier par rapport à ce qu'on connaît des mouvements syndicaux, par rapport aux luttes contre la réforme des retraites, par exemple, de 2023.
Alors, ces Gilets jaunes, qui sont-ils ? Est-ce qu'on peut, bien sûr, à grands traits, c'est en évitant de sombrer dans la simplification, leur âge, leur sexe, leurs engagements antérieurs, l'orientation politique, que peut-on dire, au moins à grands traits, de ces personnes ?
Oui, s'il y a une grande caractéristique principale de ce mouvement, qui est aussi une singularité, c'est qu'il est très hétérogène. Il a regroupé des populations qui d'habitude ne se côtoient pas trop, donc assez hétérogènes en termes d'âge, Il y avait voilà, des jeunes et des plus vieux. Au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de retraités, par exemple, qui sont restés mobilisés. Hétérogènes en termes de genre. Il y avait des hommes et des femmes, une petite majorité d'hommes, mais les femmes étaient très présentes, comme souvent dans les mouvements sociaux, mais elles étaient particulièrement visibles dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de journalistes qui s'y sont attachés. Et c'est notamment parce que c'était un mouvement qui n'avait pas de leadership et de représentants. Et souvent, dans les mouvements qui sont plus structurés, ce sont les hommes qui occupent les postes de représentation. Donc, on a beaucoup vu les femmes. Et puis, c'était surtout un mouvement très hétérogène socialement et politiquement. Et c'est ça qui le rendait difficile à lire. Nos enquêtes quantitatives, elles ont montré que c'est un mouvement qui regroupait des petites classes moyennes en voie de paupérisation, mais pas forcément, aussi installées. Et puis, une fraction des milieux populaires. Souvent, des gens qui étaient des travailleurs, mais pas que non plus. Et des gens qui se situaient sur l'axe politique, très à droite, très à gauche, ou plus ou moins proche du vote. Et c'est des choses qu'on donne à voir aussi dans le film, cette diversité-là, et qu'est-ce que ça donne au moment des élections, par exemple.
Alors donc voilà, est-ce que, vous l'avez déjà évoqué, ça aussi, ce profil atypique explique, si ce n'est justifié, les jugements hâtifs, hein, c'est tous des fachos, et autres catégorisations aussi simpliste que brutale, de la part des médias, et les difficultés assez générales de la classe politique, notamment du gouvernement, à situer le mouvement et du même coup à se situer eux-mêmes par rapport à ce phénomène.
Oui, tout à fait. Là, le mouvement, il a donné à voir, à mon avis, une aporie, une difficulté des institutions de la Ve République et puis d'une partie de la classe politique et des groupes partisans qui sont que... Comme les principaux partis qui ont évolué, voilà, la droite de gouvernement, la gauche de gouvernement et La République En Marche, ce sont des partis qui n'ont plus de pied dans la société civile, dans le monde associatif, dans le monde syndical, donc qui ont beaucoup de mal à saisir en fait ce qui se passe au sein de la population, les mouvements de politisation, les types de revendications qui vont circuler.
Des partis en quelque sorte hors sol ou insuffisamment enracinés. Qui faisait face à un mouvement, pour le coup, enraciné. Notamment, vous ne l'avez pas évoqué, des gens des périphéries, quoi, les périphéries du territoire géographique et les périphéries idéologiques.
Oui, tout à fait. Si on peut rajouter effectivement un élément de description, c'est que c'était pour beaucoup des gens de la périphérie et aussi, c'est important, je l'ai oublié, pour beaucoup des primo-contestataires, des gens qui n'avaient jamais fait de manifestation. Ils étaient plus de la majorité au début du mouvement. C'est aussi très singulier. C'est aussi ce qui contribuait à faire que ce soit difficile à qualifier.
D'accord. Alors, un des aspects majeurs qui a été mis en évidence à l'époque, notamment par les médias, et certains s'en sont donnés à cœur joie, c'est la violence. Que peut-on dire des gens dans leur diversité, de l'usage de la violence et de leur rapport à la violence ?
C'est une question intéressante. On s'est posé la question en faisant le film de la place qu'on donnait ou pas à cette question de la violence, parce que c'est vraiment quelque chose qui est resté. Je pense que la mémoire du mouvement, elle est en train de se construire, mais la couverture médiatique du mouvement, c'est ce que montrent les enquêtes aujourd'hui. Hein, voilà, j'ai des collègues qui analysent de quelle manière les journaux ont couvert la question. Ont très tôt mis en avant la violence, focalisé sur les images de violence, notamment, et ça ne vous surprendra pas, les chaînes d'information continue. Donc c'était une violence qui était particulièrement importante dans l'histoire des mouvements sociaux, de la part des manifestants et aussi de la part de la répression policière, de l'appareil policier. Et c'est aussi une violence qu'on peut réinscrire quand même dans une évolution des mouvements sociaux de ces dernières années. Si on prend une échelle longue, voilà, si on prend une échelle de 150 ans, la violence, elle baisse dans les mouvements sociaux, très clairement, très progressivement. Il y a une pacification.
La tendance générale, c'est un apaisement.
Absolument.
Des conflits.
Mais si on s'intéresse aux 10 dernières années, on voit qu'il y a plutôt une remontée en importance des faits de violence manifestante, de la part des manifestants. Donc la société se conflictualise.
D'accord. Alors, un des aspects majeurs qui a souvent été mis en évidence, on l'a aussi évoqué à l'époque, c'était l'absence de leader et l'incapacité à avoir un débouché politique claire, en tout cas dans le système politique actuel. Est-ce que ce constat qui a été fait à l'époque est confirmé 5 ans après par vos travaux ?
Oui, alors c'est tout à fait aussi une question qu'on s'est posée dans le livre et dans le film. C'est un mouvement qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a choisi de ne pas se structurer, donc de ne pas s'organiser à l'échelle nationale, de ne pas avoir de représentants officiels. Ça ne veut pas dire que c'est un mouvement sans leader. On pourrait dire... Si j'essaye de résumer la réponse à cette question, c'est un mouvement qui a donné lieu à des leaderships multiples, contestés, négociés sur les ronds-points, ce qui a permis, par exemple, à des gens qui ne s'étaient jamais mobilisés de devenir leader d'un mouvement. Donc ça, effectivement, c'est intéressant et singulier. C'est très difficile à saisir de la part du pouvoir. S'il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de négociation possible. C'est là que je dis que les institutions de la 5e sont sont pas faites pour saisir ce genre de mouvement.
Il n'y avait pas les personnes qui pouvaient porter ces revendications-là, mais il n'y avait pas le lieu, l'espace institutionnel ou en tout cas politique où la négociation ou en tout cas le débat pouvait avoir lieu.
Oui, c'est surtout qu'il n'y avait pas l'espace et l'écoute institutionnelle parce que les Gilets jaunes ne se sont pas structurés mais ils se sont coordonnés. Ils ont mis en place plusieurs éléments, le vrai débat, l'Assemblée des Assemblées qui ont fait émerger clairement des revendications. Il y a eu aussi des cahiers de doléances qui ont été faits. Il y a plusieurs collègues qui sont en train de sortir ces doléances-là. Il y a un film documentaire qui est sorti. Donc il y avait des éléments d'expression très clairs. On peut les résumer, les revendications des Gilets jaunes. Hein. C'était justice sociale, justice fiscale, transformation institutionnelle, demande de reconnaissance politique. Mais le gouvernement a plutôt fait clairement choisi un discours d'illégitimation et un discours de communication autour du grand débat qui était vraiment un exercice de communication présidentielle.
Alors 2018-2019, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé depuis ? Il y a eu quelques traces, hein, je veux dire, me semble-t-il, assez partielles et sporadiques, mais il semble qu'il y ait une espèce de mouvement de fond. Je constatais qu'autrefois, on écrivait « gilet jaune » entre guillemets. Aujourd'hui, on écrit « gilet jaune » avec capital « gilet », ce qui me semble être l'expression de cette installation, de cet enracinement de ce mouvement dans la société. Comment ça se traduit, c'est l'objet même et du film et du livre dont on dira un mot plus tard, cette perpétuation, ce prolongement ou cette prégnance du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, alors moi je peux peut-être répondre sur le plan scientifique et puis Pierre-Olivier, tu pourras peut-être répondre sur le film, comment le film montre ça ou s'intéresse à cette question-là. Dans le bouquin, nous ce qu'on donne à voir, c'est que le mouvement des Gilets jaunes commence à devenir une référence à laquelle on compare les mouvements sociaux qui se présentent, comme le mouvement des agriculteurs par exemple ces derniers mois. Il est aussi un espèce de fantôme, un espèce de spectre dont le gouvernement craint le retour.
Qu'on agite dans la...
Exactement. Et qui intrigue aussi les journalistes. Moi, les journalistes me demandent souvent est-ce qu'il y a un retour possible, etc. Et puis, plus concrètement, c'est un mouvement qui a marqué toute une... En tout cas, les gens qui y ont participé, peut-être que tu aborderas dans la question du film. C'est aussi un mouvement qui a sans doute imprégné la culture contestataire des années suivantes. Et également, y compris la culture syndicale, je pense que
donc ça... Donc il y a une espèce de diffusion de ce qu'ont été les Gilets jaunes d'une manière plus large, par ruissellement, pour reprendre un mot qui
si
évoque autre chose.
Oui, par contagion, mais c'est pas un joli mot non plus. Mais en tout cas, par inspiration, peut-être c'est mieux de le dire comme ça. Mais je pense que le recours à l'action directe, le fait de ne pas respecter certains éléments de négociation qui sont routiniers dans les mouvements sociaux, prendre des initiatives sans attendre la légitimation d'une hiérarchie, par exemple, multiplier les modes d'action à l'échelle locale, ce sont des choses qu'on peut retrouver aujourd'hui dans d'autres mouvements sociaux ou dans d'autres groupements politiques, quoi.
Alors, Pierre-Olivier Gamin, Emmanuel vous a plusieurs fois tendu la perche. Donc, je rappelle que vous avez été co-réalisateur, c'est votre métier, hein, de ce documentaire. Comment l'avez-vous abordé, je dirais, comment l'avez-vous traité ? Pas simplement sur la... Même si ça pourrait être raconté dans la prise de vue, mais dans la conception même du documentaire. Quelles sont un peu les lignes directrices que vous avez discutées ensemble, j'imagine, qui ont présidé à la réalisation du film ?
Alors effectivement, la prise de vue, elle fait suite à l'écriture. Elle est une suite logique. Pour ce qui est de l'écriture, moi, j'ai rencontré Emmanuelle alors que ça fait déjà 3 ans qu'elle travaillait.
Oui, elle avait quelques longueurs d'avance.
Voilà, par entretien sociologique avec ce qui n'était pas encore nos personnages, mais qui étaient des participants, des protagonistes du mouvement. De ces entretiens, en fait, on a tiré des fils directeurs et puis on a rencontré différents acteurs du mouvement, alors dans la région Occitanie, mais aussi un peu en Bretagne et dans la région de Lunel, un peu plus loin de Montpellier. Et en fait, ce film, c'est une proposition, c'est une torsion des travaux de recherche, hein, c'est une proposition à la fois dramaturgique, on a fait des personnages, on a construit des personnages.
C'est pas la transcription académique de ce qu'étaient les travaux. On parlera du livre dans quelques instants, mais c'est un travail, je dirais, de scénarisation. Je sais pas,
En fait, on a donc construit finalement, on a accentué des traits existants, hein, des personnages qu'on a filmés, suivis pendant 3 ans. Et on a tiré de ça en fait des grandes lignes en fait qui étaient en cohérence avec les travaux d'Emmanuel et de son équipe pour pouvoir les livrer aussi d'une autre manière. C'était pas un livre, c'est aujourd'hui un film. Enfin, c'est même les deux parce que verra, il y a aussi un livre. Mais du coup, voilà, c'est une autre manière de proposer aussi des résultats de recherche avec du sensible, de l'image et une autre forme d'écriture qui est celle de, voilà, du cinéma.
Et donc, avec volonté de toucher un public au-delà des limites de l'université ou des labos de recherche.
L'idée aussi avec ce film, c'était de le sortir des amphis de la fac et de l'amener au cinéma, alors au Diagonale le 30 avril. Mais on entame une tournée nationale dans des salles, notamment dans la région nantaise et puis plus largement à Paris. Enfin voilà, on travaille à des projections dans les cinémas pour amener aussi la recherche à un public qui n'a pas l'habitude forcément de lire ces contenus-là.
Très bien. Alors, vous venez d'évoquer, cette recherche se traduit aussi par un livre qui sera publié en septembre prochain aux éditions Le Cavalier Bleu, dévolu aux sciences humaines. Son titre, Idées reçues sur les gilets jaunes. Son sous-titre, Un mouvement social pas comme les autres. Alors, vous en avez assuré la direction avec François Buton, directeur de recherche CNRS et enseignant au master de sciences sociales de l'École nationale supérieure de Lyon. Pas moins de 25 chercheuses et chercheurs ont apporté leur contribution. Deux mots sur le livre. En gros, par rapport, on a bien compris, le distinguo de registre entre un film tourné vers le grand public et ce livre. D'abord, ce livre, est-ce qu'il peut être lu par des non-spécialistes, simplement des gens qui s'intéressent à la vie publique, par exemple ?
Oui, oui, c'est tout à fait l'idée. Donc ce livre, il s'inscrit au Cavalier Bleu dans une collection qui s'appelle Idées reçues, qui déconstruit des idées reçues. Et il vise un public très large. C'est des tout petits chapitres très efficaces, on va dire, et très denses, 2-3 pages, qui sont rédigés par des spécialistes. Et il veut tordre le cou aux idées reçues qui circulent beaucoup sur le mouvement des Gilets jaunes. Et il apprend des choses au-delà des Gilets jaunes. Et donc ça resitue le mouvement des Gilets jaunes dans l'histoire des mouvements sociaux. Et ça parle de questions qu'on a abordées, de sa composition, de ce qu'a été la réaction policière, la réaction judiciaire. Donc c'est un panorama effectivement assez complet.
Donc c'est un état des lieux, une espèce de photographie au printemps 2024, en tout cas les mois qui ont précédé de ce phénomène. Mais est-ce que pour le coup, il a, si ce n'est une valeur prédictive qui serait probablement stupide, mais en tout cas, est-ce que ça donne des clés de compréhension de ce que peut être le mouvement social dans ses différentes formes dans les mois et années qui viennent?
Alors, le livre, c'est plutôt un bilan de ce qu'on sait du mouvement des Gilets jaunes 5 ans après. Le film, pour le coup, on est sur un autre registre, hein, c'est ce qu'expliquait Pierre-Olivier, c'est une écriture, donc on propose un point de vue, une vision de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi de ce qu'est un mouvement social et de ce qui peut se passer après un mouvement social, de son sillage, de ses vagues, de ce qui reste après un mouvement social chez les gens qui se sont mobilisés, mais donc aussi de jusqu'où ils peuvent se remobiliser ou pas après.
D'accord. Et est-ce que notamment, bon, ce que vous l'avez évoqué, cette idée forte d'entrer dans le champ politique, au sens large, d'un certain nombre de gens qui, pour l'instant, n'y étaient pas, est-ce que ce phénomène-là, très significatif, me semble-t-il, il se perpétue en tout cas, même si c'est sous d'autres formes? C'est-à-dire, en gros, le champ clos habituel des militants des partis ou du débat politique classique, des codes classiques de la vie politique française a été bousculé, en tout cas modifié. Et est-ce que ces mutations se perpétuent? Est-ce qu'on peut penser qu'elles vont se prolonger?
Alors, clairement, le mouvement des Gilets jaunes, par sa composition sociale, c'est pas un mouvement qui a donné lieu à beaucoup de... Enfin, à un engagement massif dans des partis politiques comme ça a pu être le cas en mai 68, qui est venu vraiment transformer la gauche partisane ensuite, ou plus près de nous, plus récemment, les indignés espagnols. Voilà, il y en a beaucoup qui se sont engagés ensuite. Ça a venu transformer la gauche espagnole. Le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y avait un rapport défiant aux partis politiques, c'est pas effectivement comme ça que c'est venu se transformer. C'est ce qu'on donne à voir dans le film. Je ne sais pas, peut-être tu peux compléter un peu là-dessus. Les modes d'engagement, ils sont différents.
Qu'est-ce qu'on a d'une autre manière, vous travaillez avec Manuel, vous pensez le film, vous l'écrivez, il y a des rencontres, des entretiens, un montage. Et
ouais.
Qu'est-ce qui est frappant, enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous avez mis en avant, Philippe? C'est le regard du réalisateur, le parti pris du réalisateur. Comment il se traduit-il pour compléter ce qu'Emmanuel nous a dit?
Bah, effectivement, c'est une écriture documentaire. Donc en fait, nous, on a... Bon, chaque docu est très différent, mais nous, on a écrit une intention de départ. Et puis plus on tournait, plus on modifiait et on adaptait l'écriture. Et pour compléter ce que disait Emmanuel, en fait, sur la vrille politique de nos personnages que l'on a suivis. Effectivement, ça ne se fait pas sur le plan partisan, mais plutôt sur la sphère intime.
C'est un itinéraire personnel, on peut le raconter, un parcours.
Voilà, on a une personnage qui nous parle de révolution intérieure, on a des gilets jaunes qui se sont regroupés sous forme de chorale. D'ailleurs, c'était un des films qu'on n'a pas fait, c'était de faire un film sur cette chorale gilet jaune, qui parle aussi de la gilet jaunisation, si je reprends un terme de recherche, peut-être de champs et de trajectoires de vie, finalement, qui ont vrillé après avoir fait partie de ces mobilisations qui nous prenaient quand même tous les samedis, pendant très longtemps, etc. Donc c'est ce qu'on écrit dans le film, c'est ces moments dormants, pas les moments d'action, et c'est pas un film de document du mouvement, mais plutôt un film sur l'après, sur les moments où ça se transforme à l'intérieur de chacun, et collectivement et intimement, pour finalement reconverger en la suite des choses. Alors, est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est une action plus partisane, plus associative, à plus ou moins long terme? En tout cas, ça transforme, et on le voit bien chez nos personnages.
Ouais. Alors, vous l'avez évoqué les uns les autres, et à nouveau à l'instant, c'est la découverte de l'action collective, des bienfaits qu'elle apporte, y compris dans le plaisir de côtoyer des gens dont on partage les convictions ou les angoisses. Cet aspect-là, bon, qui se traduit bien sûr, qui peut se traduire dans le champ politique au sens large, il est aussi déterminant. Il apparaît dans le film à la fois ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une trajectoire personnelle qui croise d'autres trajectoires personnelles pour produire du collectif.
Ouais, tout à fait. Et puis ces trajectoires, elles sont pas unanimes, elles sont à modérer en fait avec les trajectoires de chacun. On a effectivement des gens qui ont modifié leur vision du monde, puis qui sont retournés à leurs aspirations premières, qu'on peut-être bouger, on ne sait pas trop, de position politique, en tout cas de manière de voir les autres, qui sont mobilisés pour des causes de fraternité parce qu'en fait ça touchait des gens d'un même milieu, donc qui se fédéraient et qui se devenaient finalement collectivement unifiés autour d'un même objectif et d'un même ennemi identifié, plutôt que de s'attaquer les uns les autres, etc. Le film traite de ça en nuance. On a des personnages effectivement qui ont différentes parties de ces trajectoires-là. Ouais.
Pour beaucoup, le mouvement vient quand même transformer les représentations des groupes sociaux, d'appartenance de classe et des frontières sociales. Pas pour tous, effectivement. Chacun a sa trajectoire, chacune a sa trajectoire, mais ça vient produire des phénomènes de conscientisation qui peuvent être des vrais basculements de vie.
Alors, mot idée reçue, on y a été prononcé plusieurs fois. Il se trouve qu'assez souvent, à la fin de cette émission, je pose cette question à la personne que j'ai invitée, qui a bien voulu venir. Quelles sont les idées reçues? Alors, même question. Alors, on va y revenir. J'espère qu'on ne va pas lasser les auditrices, les auditeurs. Quelles sont les principales idées reçues dont on peut profiter de votre présence pour les évacuer, peut-être, pour une bonne et dernière fois, Emmanuel?
Alors, si j'essaye d'être synthétique, un peu sharp, je dirais que les idées reçues, c'est que c'était un mouvement de brut, un peu beauf, un peu bête et qui n'a servi à rien. Et pour avoir côtoyé les Gilets jaunes, et c'est ce que le film donne à voir, c'est des gens qui ont fait un exercice de réflexion collective qui est très impressionnant. C'est des gens qui ont produit une violence plutôt en réponse à la répression policière. Et c'est un mouvement qui a contribué à politiser toute une partie de la population. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à changer la culture protestataire et à la radicaliser un peu.
Voilà. Alors donc, la suite, ça sera donc mardi 30 avril à 18h30 au cinéma Diagonale à Montpellier, avec donc la projection du film Le goût des luttes, projection donc suivie d'un débat et réalisée en partenariat avec les Livres de l'Homme et avec l'appui des Amis du Monde Diplomatique, d'Amnesty International a confirmé, et enfin de la librairie La Cavale, donc ainsi que, je l'oublie, de l'alimentaire national politiste. Donc rendez-vous le 30 avril à 18h30 au Diagonale. Merci.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.